Bonjour à toutes et à tous, 13e numéro déjà de Mémoire Aveyronnaise sur CFM Rodez. Et celui qui est à l'initiative et à la présentation aussi de cette émission, c'est bien sûr Vincent Besombe. Bonjour Vincent.
Bonjour.
Vincent, on le rappelle, président du comité Rodez du souvenir français.
Eh oui, toujours. Et avec Jean aussi d'être ici, comme d'habitude, devant vous.
Partagez, Vincent, bien sûr, comme à chacun de nos rendez-vous. Alors, il y a 15 jours, tu nous avais annoncé une émission qui allait une nouvelle fois nous faire voyager.
Très loin, oui.
Voilà, on allait partir en direction de l'Indochine et de l'Afrique à travers un Aveyronnais.
À travers un Aveyronnais, tout à fait. Alors, nous restons dans la même famille qu'il y a 15 jours, la famille Bétou.
Voilà, il y a 15 jours, on était avec un résistant, Jean Bétou. Résistant en Aveyron,
et artiste,
voilà. Et là, on a quelqu'un de sa famille qui nous fait revenir un petit peu plus loin dans le temps.
Oui, tout à fait.
Alors, c'est qui ce monsieur Bétou?
Alors, c'est son grand-oncle.
Grand-oncle, d'accord.
Voilà, c'est son grand-oncle.
Le frère de son père ou de sa mère?
Oui, de son grand-père plutôt, je pense. Jean Bétou était né en 1920,
ouais.
Et Alfred, lui, est né en 1871. Donc, je pense qu'on doit être plutôt du côté du grand-père.
Du grand-père.
Ouais. Avant de commencer...
Oui.
Je voudrais d'abord apporter une petite précision.
Ah.
Aujourd'hui, nous allons parler des anciennes colonies françaises.
Oui,
voilà.
Oui.
Je voudrais juste clarifier les choses pour les auditeurs. Dans mes propos, il n'y a aucune idéologie sur le colonialisme,
sur la colonisation.
Ouais. C'est un sujet, il faut le préciser quand même, je tiens à le préciser parce que c'est un sujet qui peut être parfois un peu compliqué ou mal interprété. Voilà, moi, en tant qu'historien, je ne suis pas là pour juger, je ne suis pas là pour prendre parti pour ou contre. Je suis juste là aujourd'hui pour parler d'histoire, et là notamment pour parler d'une histoire. Donc je voulais apporter cette petite précision
éviter
pour que tout se passe bien.
Voilà, mais t'inquiète pas,
tout à fait.
La précision a été apportée, et tu as bien fait de le faire. Alors maintenant,
allons-y gaiement.
Monsieur Bétou.
Alors, nous allons parler donc de Paulin Alfred Bétou. Donc pourquoi Paulin en premier? C'est son prénom officiel.
Ouais.
Je crois que je l'ai déjà dit dans une émission précédente, mais en généalogie, on va pas t'appeler forcément par ton prénom officiel autrefois. Ton prénom officiel, c'est toujours le premier, donc là c'est Paulin.
Ouais. Mais toi c'est Vincent.
Moi c'est Vincent, tout à fait.
Moi c'est David.
Enchanté.
On est d'accord.
Okay, ouais. Mais autrefois, voilà, il y avait toute une litanie de prénoms.
Oui.
Et le premier prénom était toujours le prénom officiel, mais en principe, c'était pas forcément celui qui était usité, qui était utilisé, bien sûr.
Non, ça date de quand, ça?
Oh, c'est ancien. Et en généalogie, les généalogistes le savent, quand ils regardent les archives, justement, dans les mairies,
ouais.
Le premier, c'est toujours l'officiel,
ouais.
Et le prénom usité, c'est le prénom qui est souligné.
D'accord.
Là, tu vois, dans la présentation, on a parlé d'Alfred Bétou.
Ouais.
Pourtant, c'est son deuxième prénom. Militairement, il était connu comme étant Paulin Bétou, et Alfred, il était connu, voilà, par les gens de son entourage, de sa famille, et lui devait se présenter comme, quand c'était pas officiel, comme Alfred.
D'accord. Mais tu veux dire que Guillaume le Conquérant, ça se trouve, il s'appelait pas Guillaume?
Ah. Qui sait? J'en parlerai pas, ce n'est pas un Aveyronnais.
Non, mais d'accord. Bon, alors déjà, j'ai appris quelque chose. Donc, au total, ce monsieur Bétou, il s'appelait Paulin, mais nous, on va l'appeler
Alfred. T'as le bonjour d'Alfred.
Eh ben, voilà, on lui passe le bonjour.
Voilà, on lui passe le bonjour.
D'accord.
Alors, donc, Alfred est né à Ségur le 21 octobre 1871.
Mm-hmm.
Son père était courtier en bestiaux.
D'accord, marchand de bêtes.
Maquignon, tout simplement.
Bien sûr.
Ce qui était assez rare à l'époque, surtout dans les campagnes, il a reçu une très bonne instruction. On le sait, j'ai pu le vérifier, parce que en 1890, il passe et il est reçu au baccalauréat à Montpellier.
Ouais, alors le bac, à l'époque, c'était pas comme maintenant, où tout le monde l'a, plus ou moins.
Ça, c'est sûr.
À l'époque, c'était vraiment la crème de la crème qui allait au bac.
Même en période d'épidémie comme la grippe espagnole, on ne devait pas le donner à tout le monde. Parce qu'il y a eu la grippe espagnole.
Ouais, non, le bac à l'époque, c'était comme maintenant, un très haut niveau universitaire.
Tout à fait.
D'accord.
Et oui, mais on va pas créer de polémique, mais à l'époque, il était important d'avoir des manuels. On vivait dans un monde de manuels. Et maintenant, ça s'est un peu inversé. Quoi. On manque de manuels, il y a beaucoup trop de bacheliers.
Ah, de travailleurs manuels. Ouais, d'accord.
De travailleurs manuels. À l'époque, voilà, il fallait. C'était dur parce que c'était quand même réservé à une.
À une élite,
alors pas forcément élite bourgeoise,
lui...
mais élite intellectuelle.
Voilà, parce que quand même, Monsieur Bétou, là, Paulin dit Alfred.
Oui,
son père était maquignon.
Son père était maquignon.
Donc, c'est pas non plus.
Non, mais je dis une élite intellectuelle. D'accord. Il fallait. Voilà. Il y avait un niveau. Mmh. On n'avait pas le niveau, mais.
Bon, il doit avoir des qualités quand même pour avoir le bac en étant fils de maquignon, ce garçon.
Oui, je pense qu'il a quand même reçu une bonne instruction parce que, voilà, Ségur, en 1890.
Ouais. Bon, déjà qu'aujourd'hui. Non, je déconne.
non, c'est très bon Ségur.
Est-ce que tu sais s'il a une mention?
Ah, ça, je sais pas.
Non, d'accord.
Je sais pas. J'aurais pu le savoir parce que j'ai la photocopie de son diplôme du bac. Bon, tu vois, j'ai pas été suffisamment curieux, j'ai pas regardé s'il a vu une mention.
Ok, donc une fois le bac en poche.
Alors, une fois le bac en poche, un an après, normalement, c'est l'année de ses 20 ans, donc il devrait passer le service militaire.
Ah, à l'époque, il était de.
À l'âge de 20 ans. Et à l'époque, 2 ans.
2 ans, bravo. Bon, c'est pour voir si tu te suis toi-même.
Je me suis moi-même.
Je fais référence à une des précédentes émissions.
Tout à fait. Alors, donc, il devrait passer son service militaire, mais son service militaire est reporté.
Oui.
Pour cause de faiblesse. Alors, c'est pas précisé quelle faiblesse, mais pas une faiblesse très très importante. On le retrouve souvent dans les documents militaires des personnes. Souvent, il y a une petite faiblesse et
les faiblesses.
On déplace le service militaire de quelques années. Oh, généralement, c'est une petite faiblesse respiratoire ou quelque chose de physique, mais sans gravité.
D'accord. Mais donc là, on réforme pas, on repousse.
On repousse. Okay. Tout à fait. Okay. Oui, parce que c'est une petite faiblesse.
Voilà, ça ira mieux plus tard.
Ça ira mieux plus tard. On va te donner de la soupe, un peu de sirop et tu reviendras nous voir.
D'accord.
Alors, il faut attendre pas longtemps, tu vois, en 1893, il fait enfin son service militaire au sein du 109e régiment d'infanterie de Chaumont.
Haute-Marne. Ah, dans la Marne.
Oui. Ça lui plaît pas mal, puisque un an après, il passe caporal. En 1894, et encore un an après, en 1895, toujours au sein du 109e régiment d'infanterie, il s'engage pour une durée de 3 ans.
D'accord.
Donc tu vois, je sais pas pourquoi il a repoussé son service militaire, mais c'est pas parce qu'il voulait pas y aller, puisque il s'y plaît, visiblement. Mmh. Donc, il va s'engager. Et en avril 1899, il va aller à l'école des officiers de l'infanterie à Saint-Mexan.
Saint-Mexan,
c'est Deux-Sèvres.
D'accord, mais bon, je continue mon petit cours de géographie.
C'est histoire et géographie.
Okay.
Donc voilà, ça lui plaît tellement qu'il veut faire vraiment ce qu'on appelait à l'époque la carrière des armes. Mm-hmm. Donc en passant par cette école d'officiers militaires d'infanterie à Saint-Mexan, il réussit et en 1900, tout rond, il sort avec le grade de sous-lieutenant. Il change de régiment, il passe au 58e régiment d'infanterie d'Avignon. Alors, en août 1900, quelques mois après, il passe avec son grade et son ancienneté de l'infanterie, où il était, pour aller dans l'infanterie coloniale, ce que l'on appelle aujourd'hui l'infanterie de marine.
Ouais. C'est une promotion ?
On pouvait dire ça parce que les colonies, tu sais, à l'époque, c'était pour les Français, c'était un peu le rêve, l'exotisme. Il y avait, on en voit beaucoup sur les photos d'époque. Il y avait des affiches partout avec des déserts, des animaux exotiques, des palmiers. Comme je l'ai déjà dit dans les émissions précédentes, on voyageait pas. Ou très peu à l'époque. Donc imagine-toi te retrouver dans je sais pas quel pays d'Afrique, te retrouver sur toutes les mers des océans ou se retrouver en Indochine, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel, nous maintenant, tu sais, on est frustrés, on a la télévision, sur certaines chaînes, on peut passer en 5 minutes du Pérou à l'Antarctique. À l'époque, à part quelques très très rares livres qu'ils pouvaient voir, soit à l'école, soit si c'était des personnes assez riches dans leur bibliothèque, on voyageait très peu. Donc oui, on peut dire que c'est vraiment la coloniale, c'était vraiment une promotion à l'époque.
D'accord.
Il est affecté, alors il part pas tout de suite, il passe dans la coloniale, et il est affecté à Toulon, au 4e régiment d'infanterie coloniale, le 4e RIC. De là, le 1er juillet 1901, il va partir pour l'Indochine, pas en juillet, en juin 1901, et le 1er juillet, Il va débarquer dans le port de Saïgon. Donc, nous sommes en Cochinchine. La Cochinchine, c'est le sud du Vietnam. Ouais. Je parlerai juste après, je parlerai un petit peu de l'Indochine. Je parlerai de différentes provinces d'Indochine, des royaumes ou des empires. Là, il va rejoindre, dès qu'il touche le sol, en fait, il va rejoindre le premier régiment de tirailleurs annamites.
Voilà. Ah, Annamite, eh ben c'est les gens qui habitent là-bas, hein. C'est le nom un peu ancien, classique, des Vietnamiens ou des Thaïlandais.
Alors, bon, je voulais en parler tout à l'heure, donc je vais en parler maintenant. En fait, le Vietnam était composé en trois parties. C'était des royaumes différents. Ouais, hein. Ouais. La Cochinchine, c'était le sud. L'Annam, donc les Annamites, ouais, c'était le centre. Ouais. Et le Tonkin. Ah, oui. Ma tonkinoise, ouais, comme dit la chanson, c'était le nord. Ouais. Et également, l'Indochine, il n'y avait pas donc que ces trois royaumes qui ont formé depuis le Vietnam, mais il y avait également le Laos et le Cambodge. Alors, tirailleurs annamites, on va le voir, ça sera exactement pareil tout à l'heure pour les tirailleurs sénégalais. En fait, c'est un terme générique. On va pas retrouver des tirailleurs cochinchinois, on va pas trouver des tirailleurs d'autres provinces. Tirailleurs annamites, en fait, ces régiments de tirailleurs annamites, ça englobe tous les tirailleurs qui viennent d'Indochine. On parlera tout à l'heure, puisque après l'Indochine et les tirailleurs annamites, il va passer en Afrique avec les tirailleurs sénégalais. Les tirailleurs sénégalais, c'est pareil. Tous les tirailleurs sénégalais ne viennent pas forcément du Sénégal, mais de toute l'Afrique coloniale française. C'est vraiment un terme militaire, c'est un terme générique. Alors donc, il va passer quelques temps en Indochine. L'Indochine, c'est un pays vraiment extraordinaire. Moi, j'en parle toujours avec... ça me laisse un peu rêveur parce que j'ai eu la chance d'aller visiter le Vietnam et c'est un pays vraiment très très beau avec des gens d'une gentillesse folle. On sait pourquoi ils y sont allés. On sent cette douceur. C'est vraiment le rêve indochinois quoi. Que moi j'en garde des souvenirs vraiment extraordinaires. Il va être obligé de partir. Il va être obligé de partir de l'Indochine en juillet 1903 parce qu'en fait, il tombe gravement malade. Il tombe d'une fièvre paludéenne.
Oui, donc un genre de paludisme.
C'est du paludisme, voilà, tout à fait. À l'époque, on disait paludéenne. Les mots, faut croire, se sont simplifiés depuis. Et également d'une congestion au foie. Le paludisme, c'est un parasite qu'on a dans le corps et qui se trouve dans le vaisseau sanguin, dans les vaisseaux sanguins et également dans le foie. Il est obligé de revenir en France. Il a ce que l'on appelle aujourd'hui en termes militaires une PATC, c'est-à-dire une permission à titre de convalescence de 3 mois pour retourner en France pour pouvoir se rétablir. Tu vois, le rêve indochinois, pour lui, durera pas très très longtemps puisqu'il débarque, je vous l'ai dit, à Saïgon le 1er juillet 1901 et il repart en juillet 1903.
2 ans.
Voilà, 2 ans quand même, ça permet de faire et de voir pas mal de choses. Alors, un an avant de partir, quand même, en 1902, il recevra une citation de son chef pour le travail exemplaire qu'il fait là-bas. C'est toujours intéressant à souligner. « Toujours soucieux à bien servir et à remplir avec zèle les devoirs de son grade, vigoureux et apte à rendre bien des services en campagne. Conduite et tenue très bonne. » Fait à Saïgon le 5 août 1902 et signé le lieutenant-colonel Drude. Donc un bon soldat.
Un bon élément,
tout à fait. Je vous ai parlé donc de l'Indochine française. Juste un petit rappel rapide. On a des liens avec l'Indochine depuis le XVIIe siècle. C'est Louis XIV qui envoie des missionnaires pour essayer d'avoir une présence française dans cette partie de l'Asie pour essayer un petit peu de concurrencer l'Angleterre qui commence à créer des comptoirs un petit peu partout, notamment en Inde, également les Néerlandais qui sont les champions à cette époque-là avec la compagnie néerlandaise des Indes. Ça se passe relativement bien. Ces missionnaires sont très bien accueillis. Ils arrivent même à convertir au christianisme certaines personnes des populations locales. Et en fait, ça va se dégrader. En 1858, il va y avoir l'empereur Tuduc qui, lui, va décider de persécuter les chrétiens. Les chrétiens français, mais aussi les chrétiens
locaux,
ces sujets, voilà, qui sont convertis au christianisme. 1858, on est sous Napoléon III. Et Napoléon III, avec... Il y a vraiment beaucoup de personnes en France qui sont touchées par le fait que des chrétiens puissent être persécutés dans cette partie du monde. Donc, décide d'envoyer l'armée française là-bas. On arrive à destituer l'empereur Tuduc. On va y mettre quelqu'un d'autre à la place. Et on va s'implanter de manière coloniale dans ce territoire. En 1887, c'est la date officielle pour la création de l'Union indochinoise. Donc l'Indochine, à proprement parler, telle qu'on la connaît, se crée à ce moment-là, en 1887. Elle est sous l'autorité d'un gouverneur général de l'Indochine qui, lui, se trouve à Hanoï. Hanoï, c'est la capitale du Tonkin, c'est dans le nord du Vietnam. Il n'y a que le Laos qui ne fait pas partie de cette, tout d'abord, de cette première union indochinoise. Le Laos va rejoindre l'Indochine en 1893, peu de temps après.
Très bien. Donc, revenons à Alfred.
Revenons à Alfred, tout à fait.
Qui va quitter ces belles régions du monde d'Asie pour partir en Afrique.
Voilà, pour partir en Afrique. Donc, de retour de permission, il va retourner une nouvelle fois au 4e régiment d'infanterie coloniale, où il était, je le rappelle, en 1900. Et en 1904, il va être envoyé en Afrique, au Sénégal, et il va arriver au 1er régiment de tirailleurs sénégalais. Donc, je vous l'ai dit, c'est une appellation qui est générale. On le retrouve à Saint-Louis. On le retrouve assez régulièrement là-bas.
Saint-Louis, ville du Sénégal.
Saint-Louis, voilà, du Sénégal. D'ailleurs, j'ai un document qui est assez amusant. J'ai une facture. Grande épicerie centrale, 10 rue Bisson, à Saint-Louis, donc du Sénégal. C'est une facture qui date du 14 juillet 1905. Donc au nom de Bétou, et alors c'est de la nourriture, on voit il y a de la sauce tomate, il y a des capres, il y a pas mal de denrées alimentaires, donc c'est assez amusant de retrouver ces factures. Bon, on sait pas trop ce qu'il peut faire là-bas. Il est lieutenant, donc il commande une compagnie, il peut commander jusqu'à, on va dire, une centaine d'hommes. On retrouve sa trace le 6 juin 1905, où il arrive dans un village qui s'appelle le village de Mal, M-A-L. C'est pas au Sénégal, c'est en Mauritanie, mais c'est vraiment juste à la frontière. C'est sur les bords du fleuve Sénégal, et ce fleuve Sénégal sert de frontière entre la Mauritanie et le Sénégal. Il arrive donc le 6 juin. Très rapidement, il tombe très fortement malade, très gravement malade. J'ai le descriptif de son état de santé et de tout ce qui va se passer par la suite. Donc, une fièvre extrême, d'énormes, vraiment des terribles maux de ventre, c'est ce qui est rapporté. Et donc, il est arrivé le 6 et le 15 juin, il va décéder à l'âge de 33 ans, à plus de 4800 kilomètres de Ségur. Il meurt d'un accès pernicieux. Oui, ouais, je te disais tout à l'heure, c'est à l'époque, pourquoi dire des choses simples alors qu'on peut dire des choses compliquées.
Il a été enterré...
En fait, c'est le palu. Il est mort d'une très grave forme de crise de palu.
D'accord. Et il a été enterré sur place ou on l'a ramené en Aveyron?
Alors, il a été enterré sur place.
Ah.
J'ai des photocopies de documents du maire de Ségur qui demande, c'est la famille en fait, il fait des démarches pour la famille, pour que le corps soit rapatrié à Ségur.
Oui.
J'ai pas réussi encore à trouver, je suis en train de faire des recherches pour voir si le corps a réussi à être rapatrié ou pas. Je vais essayer de voir, pourquoi pas, j'espère, à la prochaine émission ou lors d'une prochaine émission, vous dire un petit peu ce que j'ai pu trouver.
Voilà, autour d'Alfred Bétou en particulier, donc cet Aveyronnais, mort jeune, trop jeune.
Mort jeune, oui. On parlait de l'aventure coloniale, mais des fois on ramenait des très beaux souvenirs, d'autres fois, mais voilà, on y perdait la vie.
Et toi, tous ces documents, ces informations autour d'Alfred Bétou, t'as appris ça où, t'as récupéré ça où?
Alors, je vous ai parlé il y a 15 jours des trois filles de Jean Bétou, qui m'ont donc fait cadeau d'une centaine de dessins de l'artiste. On en a parlé la dernière fois. Elles m'ont aussi confié pas mal de documents, notamment tout un dossier. Jean Bétou faisait des recherches sur son grand-oncle, essayait de percer une énigme.
Ah, laquelle ?
Parce que, voilà, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Il y a une énigme. Alors, chers auditeurs, bon, il n'y a rien à gagner. ou alors, allez voir David, je ne sais pas, peut-être qu'il vous fera gagner quelque chose.
Ça se tente.
Stylo, non, CFM.
Non, ça, j'en ai pas.
Non, t'en as pas ?
Non.
Bon, une photo dédicacée.
Ouais.
T'as ça ?
Oui, ça peut se faire.
Bon, ça peut se faire. Alors, une énigme. Mais figurez-vous que à 5300 kilomètres de l'endroit où est mort Alfred Bétou, se trouve, depuis l'époque coloniale, et le nom n'a pas changé, un village
Bétouville.
Et une province, tout à fait, qui s'appelle Bétou. Alors, pas Bétouville, mais qui s'appelle Bétou. Jean Bétou a fait beaucoup de recherches pour essayer de savoir s'il y avait un lien familial avec son grand-oncle. Ouais. Malheureusement, il a fait chou blanc, il n'a rien trouvé. Ouais.
Mais il est où cette...
Moi non plus. Alors, c'est un village du Congo.
D'accord.
C'est un village du Congo qui se trouve dans le nord de l'actuelle République du Congo, au bord de la rivière Ubangi.
Ok, je le note.
Note-le.
Non, parce que je vais chercher. Et donc, si vous connaissez des Bétous au 21e siècle, qui ont un lien avec le Congo...
Bétous, il y en a. Mais
vous nous appelez, mais au Congo, il n'y en a peut-être pas beaucoup encore. Bon, enfin, il en reste peut-être.
Alors, c'est la ville. Attention, je n'ai pas dit qu'il y avait des gens qui s'appelaient Bétou au Congo. C'est le village qui s'appelle Bétou.
Ah, d'accord.
Et la province.
Ah, ouais.
Et la province.
Il y a peut-être un Bétou dedans. Enfin, il y a quelque chose à trouver.
Mais en tout cas, en Afrique, on donnait les noms d'explorateurs français. D'ailleurs, ce qui est très surprenant, c'est que ces noms ont jamais été retirés depuis la décolonisation. Ouais. J'en veux pour preuve Brazzaville.
Oui.
Brazzaville, en fait, ça vient d'un explorateur français qui s'appelait Brazza.
Ah bah voilà.
C'est pas lui qui a donné son nom, mais quelques années après son décès, lui aussi est mort en Afrique, et quelques années après son décès, on a donné son nom à la ville. Donc,
d'accord.
Il doit y avoir plusieurs villes comme ça qui portent le nom d'explorateurs français.
Oui. Donc, si vous avez des infos autour d'un Bétou qui aurait, il y a longtemps, eu un voyage au Congo ou eu affaire avec ces choses-là, appelez Vincent, contactez Vincent Beson, parce qu'il recherche à savoir s'il y a un lien entre le Bétouville du Congo et la famille Bétou en Aveyron.
Voilà, ou David, je vous rappelle qu'il y a une photo de David dédicacée à gagner.
C'est vrai, tu fais bien de le rappeler.
Eh oui.
Bon, super. On se revoit dans 15 jours,
Tout
mon cher
à fait.
Vincent, si tu veux bien.
Oui.
Tu sais quel sera le sujet de la prochaine émission ?
Oui, bien sûr. Alors, on va faire une balade.
Ah, bah,
je vais vous amener faire une petite balade. Alors, on préfère nous rester dans les studios, bien au chaud, mais on pourrait presque la faire à pied, cette balade, autour du studio, tout autour du studio, puisque je vais vous amener dans Rodez, sur les traces et les lieux en fait, qui existent toujours à l'heure actuelle, de l'occupation, de la collaboration et de la libération à Rodez.
Ouh, super.
C'est un sujet que j'aime beaucoup, puisque tous les 17 août, depuis quelques années, en partenariat avec la Fédération française de grande randonnée, j'anime une rando-mémoire qui part des casernes de Rodez, où ont été emprisonnés justement les fusillés de Sainte-Radegonde, mais aussi les juifs qui ont été raflés en Aveyron avant leur déportation en Allemagne. Et cette rando-mémoire donc, passe dans tous les lieux les lieux de l'occupation, de la collaboration et de la libération de Rodez. J'explique à chaque fois ce qui s'est passé à cet endroit-là. Le dernier lieu, c'est rue Grandet, l'ancienne maison de la Gestapo. Mmh. Et ensuite, voilà, la randonnée part jusqu'à Sainte-Radegonde, avec les responsables donc, de la Fédération française de randonnée, pour arriver un petit peu avant la cérémonie officielle d'hommage aux morts de Sainte-Radegonde.
Tu fais ça tous les ans autour du 17 août ?
Le 17 août, alors tous les ans, quand il n'y a pas le Covid, là, ça fait malheureusement 2 années qu'on n'arrive pas à le faire, mais en tout cas, même si cette année, on n'arrive pas à le faire, j'espère qu'on le fera. Chers auditeurs, vous l'aurez au moins fait par les ondes.
Avec grand plaisir. Et donc, rendez-vous dans 15 jours, Vincent.
Dans 15 jours. Prenez soin de vous et prenez soin de vos proches.